Bienvenue dans le podcast Scoli et compagnie. Cet épisode raconte comment nous avons identifié dans un nouveau manuscrit un exemplaire d'un texte d'Archimède intitulé « Le problème des bœufs ». Bonne écoute ! Hey, salut Scoli ! Qu'est-ce que tu fais là ?
Je range mon bureau.
Ah oui, effectivement, c'est nécessaire. Attends, je vais t'aider.
J'ai plein de livres à remettre dans mes étagères. C'est compliqué de les classer correctement.
Oula oui, tu as beaucoup de livres. Et ça ne doit pas être simple de trouver ce qu'on cherche dans un bazar pareil.
Et parfois, les pages sont remises dans la mauvaise couverture. Et là, c'est la fin des haricots. On ne sait plus ce qu'il y a dans le livre.
En plus, certaines couvertures sont décollées. Tu sais que ça me rappelle une histoire, ça. Pendant qu'on range, je vais te la raconter. Elle pourrait s'intituler « Qui cherche trouve », mais pas toujours ce qu'elle cherchait. C'était en juillet 2016, et j'avais le projet de travailler sur quelques titres de textes d'Archimède, le grand mathématicien syracusain du 3e siècle avant Jésus-Christ. Je voulais, en particulier, décrire une source remarquable, le palimpseste d'Archimède, manuscrit du Xe siècle, gratté et réécrit au XIIe siècle, et dont la couche ancienne a été redécouverte en 1906 par le grand philologue et historien des mathématiques Johann Ludwig Heiberg. Cette couche ancienne contient un texte qui n'est transmis que par elle, la méthode à Ératosthène, petit traité de mécanique contenu dans une lettre adressée par Archimède au savant Ératosthène.
Le Ératosthène qui a mesuré la circonférence terrestre ?
Mais oui, lui-même ! Scoli, ta culture m'épatera toujours. Il était aussi le correspondant et sans doute l'ami d'Archimède. Et surtout, il a été directeur de 235 à 195 environ avant Jésus-Christ de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. On voit l'idée. Archimède adresse un texte inédit à un bibliothécaire célèbre, avec probablement l'ambition que son texte intègre le corpus mathématique conservé et diffusé par les philologues alexandrins.
Ah oui, c'était pas juste une lettre pour l'inviter à une pendaison de crémaillère.
Pas vraiment, en effet. Il y a beaucoup de lettres de ce genre qui circulent dans l'Antiquité et qui ont été conservées, qui ne sont pas vraiment des lettres privées, mais plutôt de véritables petits livres qu'on envoie à des proches, à des élèves, à des collègues, pour transmettre des résultats scientifiques ou des savoirs de toutes sortes. Pour relier correctement un texte, ici la méthode à Ératosthène, à une source, notre fameux palimpseste, il faut décrire la source, selon la norme internationale de citation des manuscrits, qui se décompose ainsi. La ville, la localisation, c'est-à-dire une bibliothèque, un monastère, ce que tu veux, le fond et la cote. Et pour être certain de ne pas se tromper, un bon réflexe est de consulter la base Pinakes de l'Institut de recherche sur l'histoire des textes qui recense tous les manuscrits grecs conservés.
Tous les manuscrits grecs ?
Oui, tous les manuscrits grecs, tous, et il y en a beaucoup. Plus de 40 000 dans la base de données de Pinakes. Dans cette immense base de données, je pars donc à la recherche de la référence exacte du palimpseste. Et je décide d'utiliser la fonction « recherche générale » qui permet de naviguer à partir des titres des œuvres et des noms d'auteurs. La tradition manuscrite de la méthode à Ératosthène étant limitée à un seul manuscrit, normalement, je n'aurai qu'une seule réponse, en cherchant à partir de ce titre.
Attends. Rappelle-moi juste une chose. C'est quoi la tradition manuscrite ?
Ah, la tradition manuscrite d'un texte ! Mais c'est la reconstitution de l'ensemble des manuscrits connus qui l'ont transmis jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'à l'invention du livre imprimé. Pour certains auteurs, elle est immense. Tiens, par exemple, prends un auteur connu comme le médecin Galien. Il y a des centaines de manuscrits qui contiennent ces textes, sur une période très longue. Mais Archimède, lui, a cette particularité d'être très connu dans l'histoire des sciences, mais d'avoir une toute petite tradition manuscrite. très peu de manuscrits conservés contiennent les textes qui lui sont attribués.
C'est très injuste.
Eh oui, et c'est une injustice qui a de nombreux autres exemples. On s'imagine que l'histoire conserve très bien les bons textes et très mal les mauvais. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des textes qui vont être beaucoup recopiés, parce qu'ils sont très utiles, comme les textes de médecine, de droit ou de grammaire, ou parce que la société de l'époque a décidé qu'ils avaient une grande valeur littéraire ou philosophique, comme les poèmes d'Homère, les tragiques grecs ou les dialogues de Platon, et d'autres qui vont rester beaucoup plus confidentiels. Soit parce qu'ils sont moins utilisés, soit parce que leur auteur a moins de succès, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans ce qu'on appelle le canon littéraire.
Quoi ? Le canon ?
Mais non, pas ce canon-là ! Le canon littéraire, c'est comme cela qu'on nomme l'ensemble des textes considérés comme des classiques. C'est-à-dire des textes dont on considère qu'ils peuvent servir de modèle à tous les autres, et qui donc méritent plus que les autres d'être conservés. Archimède n'est pas dans la liste, malgré son importance dans l'histoire des sciences. Il a eu beaucoup moins de chance que le géomètre Euclide, dont les textes sont transmis par plusieurs centaines de manuscrits. Mais revenons à nos moutons. Je fais ma requête, et là, surprise. Normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul manuscrit relié à la méthode à Ératosthène, le palimpseste. Mais la base de données me renvoie une autre réponse, un second manuscrit. Un manuscrit tout à fait catalogué, identifié, mais qui n'a jamais été recensé par les différents éditeurs scientifiques d'Archimède comme témoin de la méthode à Ératosthène, ni d'ailleurs d'aucun texte d'Archimède. Un manuscrit conservé à la Biblioteca Nazionale Marciana de Venise, sous la cote grecque 11,1, avec un numéro supplémentaire 452.
Attends. Tu veux dire que c'est un manuscrit perdu ? Tu as trouvé un artefact oublié, comme dans Donjons et Dragons ?
Pas exactement, non. Il n'était pas perdu, puisqu'il était bien catalogué. On va faire un petit point sur ce qu'on fait exactement quand on catalogue un manuscrit. Quand on parle de manuscrit, la plupart du temps, on fait référence à un codex, un ouvrage relié, fait de cahiers de parchemin cousus et qui se feuillettent. Le codex est vraiment devenu le format dominant pour les livres à partir du 5e siècle après Jésus-Christ. Il est beaucoup plus pratique que le rouleau. Mais sa production coûte très cher. Le parchemin est plus onéreux que le papyrus et le papier n'est pas encore très répandu. Pour des raisons d'économie, on va donc avoir tendance à utiliser un seul codex pour copier un maximum de textes. Contrairement à ta bibliothèque Scholy, dans laquelle un livre la plupart du temps contient un seul texte, une bibliothèque de manuscrits est pleine de livres qui contiennent plusieurs textes et parfois des dizaines de textes. Et si certains copistes sont soigneux, préparent des index, un genre de table des matières, séparent avec des titres les différents textes qu'ils associent dans le volume, d'autres le font moins bien, voire ne le font pas du tout. Imagine, par exemple, que tu aies dans un seul livre un roman de Balzac, un autre de Terry Pratchett, un manuel de géométrie et une collection de poèmes de la Renaissance. Sans séparation entre les textes, hein, sans table des matières, avec juste un titre pas souligné. Tu auras là un objet qui ressemble beaucoup à un manuscrit médiéval.
Mais ce n'est pas pratique du tout.
Ça reste bien plus maniable qu'un rouleau de papyrus de 8 mètres de long. Mais c'est un cas intéressant de ce qu'on appelle l'effet rebond. Une innovation technologique, le codex, aboutit à un nouveau problème. On s'est imaginé que la possibilité de feuilleter allait résoudre tous les problèmes de lecture et qu'ajouter des pages permettait des économies substantielles. Et on a créé des livres, en réalité, très compliqués à utiliser.
Donc, tu es en train de m'expliquer que pour créer les catalogues de manuscrits, il a fallu tout feuilleter en fait ?
Exactement ! Cela s'appelle dépouiller un volume, faire la liste de son contenu. Depuis des siècles, bibliothécaires, collectionneurs, chercheurs s'abîment les yeux sur chaque codex pour identifier page à page les textes qui sont copiés dedans et en dresser la liste. Et quand tu sais que la plupart des bibliothèques européennes contiennent des manuscrits et que ça se compte en milliers dans les grandes bibliothèques nationales...
Mais c'est impossible!
Eh oui, c'est tellement impossible que ça n'est pas entièrement fini. Il reste encore des codex non dépouillés ou partiellement dépouillés un peu partout dans le monde. Mais là où mon manuscrit d'Archimède est intéressant, c'est que c'est encore un cas un peu différent. Un codex relativement bien dépouillé, depuis longtemps, mais pas rattaché au bon texte. Sur le catalogue historique de la Bibliotheca Nazionale Marciana, lui aussi manuscrit, et daté du XVIIIe siècle. On a une description à peu près ordonnée du contenu du manuscrit repéré dans Pinakes, qu'on va à présent, entre nous, appeler le Marcianus. Concernant le texte d'Archimède qu'il contient, on a la mention suivante. « Problema ab Archimède ad Eratosthène », ce qui veut dire « problème d'Archimède adressé à Eratosthène ». On a aussi son incipit, c'est-à-dire ses premiers mots. « Plétune Elioio Boon ». C'est du grec.
Mais attends là. Mais ça parle de bœuf ?
Eh oui, Scoli ! Ce n'est pas l'incipit de la méthode à Eratosthène. C'est l'incipit d'un autre texte d'Archimède, « Le problème des bœufs ». Comme tu le sais sûrement, « Le problème des bœufs » est un jeu mathématique imaginé à partir d'un passage de l'Odyssée d'Homère. Le problème lui-même, que la tradition attribue à Archimède, se présente sous la forme d'une épigramme, un petit poème, adressé au même Eratosthène que la méthode, ce qui explique qu'on puisse les confondre. Et son début peut se traduire ainsi. « Dénombre, amis, les troupeaux du soleil qui couvraient jadis les plaines de la Sicile, divisés en quatre groupes selon leurs couleurs, les blancs, les noirs, les pies et les jaunes. » On ignore si ce texte est d'Archimède lui-même. Si l'authenticité du poème est un peu douteuse pour des raisons linguistiques, car Archimède écrit en dorien de Syracuse, alors que l'épigramme est écrite en ionien, on pense qu'Archimède est tout de même bien l'inventeur de l'énigme. On a également débattu longuement pour décider si le problème était traitable avec les connaissances mathématiques de l'époque d'Archimède, notamment sa seconde partie, qui nécessite l'emploi d'équations diophantiennes assez complexes et qui suppose la possibilité de poser pour la solution de très grands nombres.
Grand comment ?
Encore bien plus que tout ce que tu peux imaginer. La solution trouvée par des mathématiciens à la fin du XIXe siècle s'écrirait en notation moderne 7,76 multiplié par 10 puissance 206 544. Pour cette raison, certains historiens des mathématiques doutent fortement que cette solution soit la bonne, en tout cas la solution imaginée par Archimède. Et comme il se trouve qu'aucune version ancienne ne donne de solution, on pourra encore débattre longtemps. Par contre, on a des résultats plus positifs concernant l'histoire des sources de ce texte. Les différentes éditions critiques et traductions depuis Heiberg mentionnent toutes seulement deux manuscrits pour le problème des bœufs. Le manuscrit grec 77 du fonds Markarth Gude de la bibliothèque Herzog August à Wolfenbüttel et le grec 2448 de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Le découvreur du problème des bœufs n'est autre que Lessing, le grand savant des Lumières allemandes. Lui-même conservateur général de la Bibliothèque Herzog August entre 1770 et 1781. Beaucoup plus tard, Henri Lebègue, éminent paléographe français du XIXe siècle, tombe au hasard de ses investigations sur les manuscrits alchimiques grecs de Paris sur le grec 2448 qui contient une autre version du problème. L'éditeur moderne d'Archimède, Heiberg, est formel. Il n'y a pas d'autre témoin du texte. Et tous ses successeurs lui emboîtent le pas. Le problème des bœufs n'est officiellement transmis que par deux manuscrits. Donc il semblerait bien que tout le monde ait oublié notre pauvre manuscrit vénitien de la Bibliotheca Marciana.
Mais comment est-ce possible ?
Eh bien, le plus probable, c'est que la description un peu ambiguë du manuscrit dans le catalogue historique de la Bibliotheca Martiana a entretenu la confusion. Les chercheurs ont regardé le titre attribué dans le catalogue, mais pas l'incipit. Mais notre petit Martianus, qui date approximativement du XIVe siècle, n'était pas totalement perdu à proprement parler. J'ai trouvé en 2016 qu'il était bien décrit dans le volume 3 du livre d'Elpidio Mioni, Codices Graeci Manuscripti Bibliothecae Divi Marci Veneciarum, paru en 1972, et qui, comme son titre l'indique, décrit les manuscrits grecs de la Bibliotheca Martiana. Elpidio Mioni a fait un dépouillement du manuscrit, pas totalement complet, mais bien meilleur que la version du catalogue historique. Et on sait donc, dès 1972, qu'il contient, en plus du problème des bœufs, des paraphrases de fables, des lettres variées, des fragments mêlés de Marc Aurèle et des liens, des exercices de grammaire et des épigrammes.
Oui, en fait, une vraie Macédoine.
Exactement. Un mystère demeure. Comment se fait-il que ce manuscrit, identifié dès son entrée à la Martiana en 1789, correctement dépouillé par Mioni en 1972, n'ait jamais été utilisé, ni même mentionné, dans les éditions critiques modernes d'Archimède? Mioni lui-même accompagne son relevé du texte d'une référence à l'édition de Heiberg dont je t'ai dit qu'elle ne mentionnait pas ce manuscrit. C'est très étonnant.
Et tu as la réponse?
Et non, Scoli, depuis 2016, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai travaillé avec mes collègues sur ce manuscrit et nous avons appris plein de choses à son sujet, que je te raconterai peut-être une autre fois. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, dans Pinakes, il n'est plus rattaché à la méthode à Ératosthène.
Tout ça pour corriger une ligne dans une base de données.
Sur des milliers de notices dans une base de données, il y a toujours des erreurs. Et en l'occurrence, comme je te l'ai expliqué, l'erreur vient de bien plus loin. Et ce manuscrit est resté pendant une longue période sous les radars des savants. C'est pourquoi il était important de ne pas prolonger la confusion plus longtemps.
Quelque chose me dit que je sais où tu veux en venir.
Qu'il faut toujours vérifier les informations issues des bases de données en les recoupant avec d'autres? Et que c'est pour cela qu'on a besoin de bibliographes? Probablement. Et aussi...
Et que je devrais mieux ranger mes livres?
Ça, tu me l'ôtes de la bouche.